Comme l'a dit Alexandre au début, moi je suis doctorant à l'université de Rouen et je suis sur la fin de ma thèse et je travaille sur les recherches collaboratives et plus précisément sur la motivation des acteurs qui sont dedans, notamment les chercheurs et les enseignants. Alors, je trouvais vraiment les témoignages très très intéressants. Ça fait écho aux résultats qu'on trouve enfin, dans mes premiers résultats de thèse et j'ai essayé du coup de faire un peu une synthèse contextualisée dans mon cadre théorique. Alors juste rapidement, avant, moi, donc, je travaille sur la motivation et je voulais simplement la distinguer de l'engagement pour que vous voyez bien de quoi on parle quand on parle de motivation, parce qu'on ne l'avait pas défini ce matin. Donc comment enfin ce matin, au début, comment motiver un collectif? La motivation, c'est quelque chose qui est souvent, c'est un terme qui n'est pas toujours utilisé, on va dire, dans son sens scientifique, parce que on a toujours l'impression qu'on peut dire que quelqu'un est motivé ou ne l'est pas, alors que la motivation, elle est invisible. La motivation, c'est les forces que l'on perçoit, et qu'elles soient internes, c'est-à-dire qu'elles viennent de nous, ou externes, de l'environnement dans lequel on est, et qui influencent notre comportement, c'est-à-dire la manière dont il se déclenche, la direction qu'il va prendre, son intensité et sa persistance dans le temps. Et l'engagement, c'est donc les comportements actifs et productifs des individus. Donc, si je fais un petit schéma, la motivation, elle influence l'engagement. Donc, l'engagement dans la recherche collaborative, bah, c'est tous les comportements, le fait que l'on s'engage de manière intense et productive dans les activités qu'on fait dans le cadre, par exemple, des Léas dont vous avez parlé. Et la motivation, c'est ce qui nous pousse à le faire. Qu'est-ce qui nous pousse à nous engager de manière intense et durable dans les Léas ou à l'inverse, à moins s'engager? Alors, moi, je m'appuie sur un cadre théorique qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie en psychologie sociale. Et pour faire très bref, si vous voulez, ce qui est visible, ce que vous voyez quand vous êtes, par exemple, en réunion avec vos collègues ou dans les expériences que vous rapportez, c'est l'engagement des acteurs des recherches collaboratives. C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'investissent beaucoup en temps et en énergie dans les Léas? Visiblement, par rapport à ce qui nous a été rapporté aujourd'hui, bah, il y a un engagement qui est intense et durable dans ces recherches-là. Et cet engagement, il est influencé par la motivation qu'ont les acteurs. J'ai synthétisé, mais il y a, on va dire, trois grands types de motivation. Ce sont soit des motivations autonomes, c'est-à-dire que je fais une activité, je m'engage dans les Léas parce que c'est quelque chose que j'ai choisi, je le fais par plaisir, par intérêt, parce que c'est un but pour moi. Ou je peux le faire, je peux m'engager de manière contrainte, bah parce que j'ai des pressions, je me sens obligé, je veux faire plaisir à mes collègues, etc. Ou bien je suis engagé, mais bon, le Léa, je ne perçois plus vraiment le sens, j'ai l'impression de perdre un petit peu mon temps quand je suis dans le Léa. Donc, voilà différents degrés de motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont à peu près toutes présentes chez les individus. Donc, la motivation, de la manière dont on l'appréhende, ce n'est pas une question de quantité, mais c'est la qualité de la motivation, c'est-à-dire si tout le monde a la même somme de motivation, eh bien à l'intérieur, est-ce qu'on a plutôt une proportion importante de motivation autonome ou de motivation contrainte ou d'amotivation? Dans l'étude quantitative qu'on a menée sur les enseignants-chercheurs sur 200, environ, entre 220 et 2, j'ai plus le chiffre exact, entre 220 et 230 enseignants et chercheurs qui participent à des recherches collaboratives, on trouve des niveaux de motivation autonome très très élevés, qu'on retrouve très rarement dans d'autres études sur la motivation. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on peut dire, c'est que les recherches collaboratives, c'est des dispositifs bah, qui soutiennent fortement la motivation des acteurs. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre bah, pourquoi est-ce que ces acteurs ont des niveaux de motivation élevés. Et ce sont les derniers concepts que je vais apporter et sur lesquels je vais essayer de faire un petit peu après ma synthèse. On sait donc du coup que sur la droite du schéma, vous avez l'engagement. Plus les acteurs sont engagés, en général, plus ils sont poussés par des motivations autonomes. Et ces motivations, elles sont le résultat souvent de la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux. Je ne parle pas de physiologie, manger, boire, dormir, etc., mais psychologique. D'abord, quand on fait une activité, quand on est dans un groupe, etc., le premier besoin, c'est ce qu'on appelle le besoin d'autonomie. Ce n'est pas le fait de faire seul tel qu'on entend l'autonomie de manière régulière. Le besoin d'autonomie, c'est le sentiment qu'on s'engage librement dans une activité, que l'on fait quelque chose que l'on a choisi. Le besoin de compétence, c'est le sentiment de se sentir efficace, que l'on peut exprimer nos compétences quand on est dans une activité. Et le besoin de proximité sociale, c'est le sentiment d'être connecté avec les autres. Connecté, ça veut dire bah, j'ai l'impression que les autres membres du groupe m'apprécient et en retour, j'apprécie aussi les autres membres du groupe. Et donc, bah, moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse, c'est finalement comment est-ce que le contexte des recherches collaboratives, qui est ici, donc c'est l'environnement, on va dire, social, les différents individus d'une recherche, eh bien, comment est-ce que ce contexte soutient ou non les besoins psychologiques fondamentaux des individus et donc vont influencer leur motivation et à la in fine, leur engagement dans les recherches collaboratives. Alors, avec tous les témoignages qu'on a eus, ben, il me semble qu'on a eu des éléments très concrets sur l'expérience vécue des acteurs sur le soutien des trois besoins. J'ai essayé donc du coup de catégoriser les types on va dire, de stratégies ou d'éléments contextuels des recherches collaboratives qui peuvent soutenir à chaque fois les besoins psychologiques fondamentaux des acteurs. Sur le besoin d'autonomie, une première, on va dire, à la fois ou stratégie ou bien ou premier élément qui semblait important, c'est la dimension du choix, puisque le besoin d'autonomie, c'est le sentiment de liberté que l'on a dans les activités que l'on fait. Bah, en effet, le choix, quand on a du choix, eh bah, on a ce sentiment de liberté. Et donc là, dans les deux témoignages qu'on a eus, on retrouvait cette dimension de choix dans pas mal de choses. Le choix du thème, le choix des albums, le choix des ouvrages à lire en sociologie, le choix du rôle, du degré d'engagement, etc. Le fait d'avoir laissé du choix, on peut supposer, dans les interprétations que j'en fais dans des témoignages, c'est que ça a pu soutenir le besoin d'autonomie. Le deuxième élément sur le besoin d'autonomie, c'est que les acteurs éprouvent un intérêt ou que les activités qui sont faites soient liées à des buts importants pour eux. Alors, on a eu quelques éléments intéressants. J'ai notamment noté vers la fin Simon qui parlait des analyses qu'on pourrait dire contextualisées. Il me semble que là, bah, du coup, ça rencontrait vivement les intérêts des enseignants. Il y avait aussi le fait que, oui, le fait d'avoir travaillé sur les questions des stéréotypes liés au fait de travailler dans des micro-lycées, tel que l'a rapporté l'équipe d'Amiens, il me semble que là, bah, du coup, ça rencontrait un intérêt, un but important pour les acteurs. Et puis enfin, la troisième dimension sur le besoin d'autonomie, bah, c'est le fait que les acteurs aient un sentiment de liberté dans la recherche collaborative. Et là, on a eu des éléments tels que bah, la liberté de parole, et puis le fait de trouver des points d'accord avec les autres, c'est-à-dire d'avoir des temps d'échange où chacun peut prendre, soit, enfin, les temps d'échange permettent aux acteurs bah, finalement d'avoir du choix. Et puis un dernier point, c'était aussi sur le choix des intérêts, des questionnements. C'était notamment dans Galimero, où au départ, vous aviez dit que chacun avait peut-être des intérêts un petit peu différents, mais que le contexte de la recherche collaborative permettait à chacun d'y trouver son compte. Donc ça, ce sont les trois éléments que j'ai pu repérer un peu à chaud sur le besoin d'autonomie. Ensuite, sur le besoin de compétences, là, je voulais faire un petit retour sur les résultats qu'on trouve, nous, d'un point de vue quantitatif. On trouve que c'est le besoin le moins satisfait chez les acteurs des recherches collaboratives. Et puis, bah, la première interprétation que j'ai pu en faire, le premier élément qui a un peu expliqué, moi, les résultats que j'avais trouvés dans mon enquête quantitative, bah, c'est, par exemple, il me semble, le fait, au départ, de rentrer dans une approche liés à la sociologie ou pour des enseignants rentrer dans une démarche de recherche une démarche dont ils ne sont pas forcément familiers, eh bien, il me semble que ça pouvait impacter leur besoin de compétences. Et puis, ben, on l'a senti aussi quelques appréhensions sur la lecture des ouvrages. Et puis finalement, ce besoin, il a été soutenu quand les acteurs se sont sentis capables et en réussite dans les activités qu'ils ont fait d'un point de vue de la recherche. Le deuxième point sur le besoin de compétences, il me semble que c'est la dimension structure. Bah, pour pouvoir réussir efficacement, eh bien, il faut une structure qui permette aux acteurs de s'engager. Il me semble que des éléments sur lesquels que vous avez présentés, mais que vous n'avez pas relié à la motivation, il me semble que tout ce qui était dimension, la fréquence des réunions qui est fixe tous les vendredis ou une fois par mois le mercredi après-midi, une structure régulière à l'intérieur des réunions. Il y en a qui parlaient par exemple de Rezana dans le chat, bah, ce sont des éléments qui permettent aux acteurs bah, que le travail soit structuré et donc qu'ils puissent se sentir plus efficaces. Et puis le dernier élément sur le besoin de compétences, c'est le témoignage des acteurs où on sent que par la recherche collaborative, ils ont le sentiment de pouvoir faire plus. Et ça, c'était notamment, il me semble, la participation à des colloques, le fait qu'on va faire des nouvelles choses et donc on a le sentiment qu'on est encore plus efficace, ou bien, vous ne l'avez pas évoqué, à moins que je l'ai oublié, mais c'était étonnant peut-être pour les enseignants dans la salle de classe. Qu'est-ce que ça change dans la salle de classe quand je fais cours à mes élèves? Est-ce que je me sens plus efficace? Et puis, ou par exemple, le fait d'avoir lu des ouvrages de recherche, de sociologie, eh bien ça, c'est des éléments qui finalement soutiennent le besoin de compétences. Et enfin, sur le dernier élément, sur la proximité sociale, qu'est-ce qui fait que les acteurs sont connectés? J'ai aussi relevé trois points. Le premier, c'est le temps long. Alors même si le temps long, il me semble qu'il pouvait avoir des effets sur l'ensemble des besoins, parce que c'est dans le temps long qu'on se sent de plus en plus efficace, c'est dans le temps long qu'on construit de l'intérêt, donc on soutient le besoin d'autonomie, mais aussi c'est dans le temps long qu'on arrive à créer du lien. Et donc ça, il me semble que réussir à donner du temps à la recherche, c'est un premier élément important. Le deuxième élément, c'est, j'ai appelé ça une communication honnête, puisque très souvent, dans tout ce qui est les travaux sur la collaboration, on remarque qu'un des points qui peut nuire à la collaboration, c'est quand les acteurs n'expriment pas leur point de désaccord, où il n'y a pas de temps pour échanger et donc créer un peu du consensus. Et donc, cette communication honnête, elle m'a semblé importante dans les deux groupes. Et puis, le dernier élément, c'est un peu ce qui m'a mis sur la piste, mais ça fait écho à quelques entretiens que j'ai déjà faits dans ma thèse. C'est ce que j'ai appelé les moments forts. Alors, vous avez appelé ça les moments off, mais il me semble que dans les recherches collaboratives, quelquefois, il y a des moments qui sont plus forts que d'autres et qui contribuent à renforcer le lien entre les acteurs. Donc, voilà, je pense que c'était aussi une troisième stratégie qui pouvait soutenir le besoin de proximité sociale. Et enfin, donc, de manière synthétique, il me semble que les éléments qui ont été rapportés qui peuvent expliquer la motivation des acteurs dans les collectifs des recherches collaboratives, c'est donc un ensemble de stratégies qui peuvent soutenir ces trois besoins psychologiques fondamentaux. Et je voulais dire aussi deux choses, non, une chose, une dernière. La question, il me semble, de Serge tout à l'heure dans le chat sur la différence de motivation entre participer en gros, à la conception, à la co-construction, ou bien participer à l'analyse. Dans les tout premiers travaux sur ma thèse, on a essayé de produire une typologie des recherches collaboratives et on a montré, et il me semble que les deux Léa qui ont témoigné aujourd'hui illustrent parfaitement cette distinction, on a essayé de montrer que on a montré que les recherches collaboratives, elles se distinguaient en deux grands types, entre celles qui rentraient par une étape de conception, c'est-à-dire d'abord où on construit des séances, on les expérimente et on les analyse. Et puis les Léa qui rentraient plutôt par les pratiques quotidiennes, donc ce qui se passe dans la classe, et qui commencent d'abord par analyser ce qui se passe, et puis potentiellement après, on va sur une étape là de conception, puisque les analyses nous amènent à transformer ce qu'on fait dans nos pratiques. Et la question, c'était, est-ce qu'il y a différents types de motivation selon la participation à ces étapes? Je ne peux pas y répondre très précisément, mais dans le cadre de l'étude quantitative qu'on a menée, on a analysé les projets qui participaient, on les a catégorisés entre ceux qui rentrent par les étapes des pratiques, donc plutôt l'analyse de ce qui se passe, et puis ceux qui rentrent plutôt par la conception. Et selon le point d'entrée dans les projets, on n'a pas trouvé de différence significative de motivation des acteurs. Donc aujourd'hui, moi, je pourrais dire que, à ma connaissance, n'y a pas de différence de motivation entre participer à la conception et participer à l'analyse. Et je pense que la réponse, elle se situe plutôt autour du besoin d'autonomie, c'est-à-dire est-ce que les acteurs trouvent de l'intérêt, du sens, ça correspond à ils ont le sentiment d'avoir du choix dans la recherche collaborative, et c'est plutôt cette dimension-là qui ressort comme la plus importante pour engager les acteurs. Voilà, j'espère que ma synthèse aura fait un petit peu écho et aura été à peu près fidèle à ce qui a été dit dans ces échanges.